Philippe Zawati, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de Mirova et également président de Finance for Tomorrow. On va en parler ensemble avec vous à Paris Europlace. On parle avec vous de finances vertes. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus, qu'on a l'impression que la France est en train de prendre sa place. Qu'est-ce qui déjà tire ce marché de la finance verte aujourd'hui ?
Je crois que depuis maintenant quelques années, il y a une prise de conscience assez forte que la finance a un rôle majeur à jouer pour la transition énergétique, la transition climatique. Donc ça a commencé avec la COP21, évidemment. Et puis ensuite, ça s'est poursuivi avec un grand nombre d'initiatives de la part du monde financier. Donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience que la finance, ce n'est pas un outil neutre, en fait. Hein. C'est que nous avons une responsabilité. La finance, ce n'est pas juste un miroir dans lequel l'économie réelle viendrait se regarder. On doit jouer un rôle pour faire évoluer de façon massive l'allocation du capital pour aller vers une économie non carbonée.
Vous avez eu le communiqué final du G20 où on a vu quand même la plupart des États, des grands États, être d'accord, sauf les États-Unis. Les États-Unis, ça reste quand même le premier pollueur du monde. Est-ce que ce n'est pas un problème pour le monde que les États-Unis soient sur cette tendance-là ?
Ce n'est pas une bonne nouvelle, bien sûr. Mais bon, le G19 a pris une direction claire. Voilà, on a un G19, on n'a plus un G20. Mais ce qui est important surtout, je crois, c'est qu'on est passé de cette phase un peu diplomatique où les États étaient essentiels, c'était la COP21, à une phase où c'est les acteurs économiques et les acteurs de la société civile qui ont pris le relais, qui aujourd'hui jouent un rôle majeur. Et notamment dans le monde économique et le monde financier, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'initiatives qui maintenant montrent que ça y est, on est passé à une autre phase. On a pris en compte le fait que l'essentiel des États avait pris une direction claire et maintenant l'économie est en train de changer. Et ça, c'est pas la décision de Donald Trump qui va changer cette évidence-là.
Alors, on a parlé des green bonds, de ces obligations vertes. Qu'est-ce qu'on trouve derrière ce type de produit pour les investisseurs ?
Donc, les obligations vertes, c'est l'exemple type de l'innovation financière mise au service des objectifs climatiques et l'exemple type aussi d'une initiative qui est venue de l'industrie elle-même, pratiquement sans aucune incitation publique, voire quasi sans aucune incitation publique. Donc ce sont des obligations qui financent, qui sont totalement dirigées vers le financement de projets et d'entreprises liées à la transition énergétique. Et c'est aussi un produit facile à comprendre, qui est dans le marché. C'est pas quelque chose de très compliqué. Donc c'est à la fois une évolution de la finance qu'on appelle mainstream, hein, en quelque sorte, c'est-à-dire la finance traditionnelle, et à la fois une innovation forte. C'est vers ça qu'il faut qu'on aille aujourd'hui, avoir beaucoup plus d'innovation dans ce domaine-là, et puis évidemment faire croître ce marché qui représente aujourd'hui environ 1% du marché obligataire mondial et le faire passer à 5, 10, 15% dans les années qui viennent.
Alors justement, la place de Paris a une opportunité peut-être justement dans ce secteur-là. Quels sont ses atouts selon vous pour attirer plus d'investisseurs internationaux vers ce type de produits ?
On a la chance d'avoir à Paris un écosystème absolument extraordinaire dans le domaine de la finance verte et durable. Ça ne date pas d'aujourd'hui. L'investissement responsable, c'est quelque chose qu'on pratique depuis maintenant 10 ans, 15 ans à Paris. Mais depuis ces dernières années, avec la COP21 et avec aussi l'évolution de la réglementation qui a été assez favorable, on a vu émerger un écosystème qui comprend des banques, des assurances, des investisseurs institutionnels, des cabinets de conseil. Et ça, c'est un élément qui... Enfin, ça nous positionne clairement comme le leader aujourd'hui en tant que place de finance verte en Europe et dans le monde. Et on a bénéficié aussi d'une collaboration avec les pouvoirs publics qui a été extrêmement efficace. Tout ce qui a été fait sur l'article 173, donc tout ce qui était transparence et reporting, ce qui a été fait autour des labels, évidemment l'émission de green bond public, tout ça a été fait dans un esprit d'échange et de collaboration entre les pouvoirs publics et les acteurs de l'industrie, donc avec de la réglementation, parce qu'il en faut, mais une réglementation souple, flexible, favorable au business. Et ça, je pense que c'est un atout majeur de la place de Paris.
Alors, en introduction, je disais que vous étiez le directeur général de Mirova et le président de Finance for Tomorrow. Quels sont justement, alors Mirova on connaît, mais Finance for Tomorrow avec Mirova ?
Voilà, alors donc bon, Mirova, c'est la filiale de Natixis spécialisée en investissement responsable. Et Finance for Tomorrow, c'est donc une entité qu'on a lancée il y a quelques semaines. En réalité, qui existe depuis à peu près un an, c'était la Paris Green and Sustainable Finance Initiative, donc une initiative qu'on a prise depuis un an au sein de Paris Europlace et qu'on a transformée il y a deux semaines en une entité spécifique, dédiée, avec une cinquantaine de membres, l'ensemble des acteurs de la place de Paris, y compris public et privé, et des ONG aussi, qui donc regroupe l'ensemble de ces acteurs avec un certain nombre d'objectifs pour développer la finance verte parisienne. En quelques mots, trois grands axes, trois grands objectifs. Le premier, c'est développer l'expertise. L'essentiel, le point de différenciation de la place de Paris, c'est la qualité. C'est pas du greenwashing, c'est de la qualité. On veut développer cette expertise-là. Le deuxième axe, c'est à nouveau la collaboration entre le public et le privé. Donc tout ce qui est politique publique au niveau français, mais aussi de plus en plus au niveau européen, avec le groupe d'experts de la Commission européenne qui va rendre son rapport intérimaire le 18 juillet. Puis le troisième axe, c'est évidemment le faire savoir, la promotion et la collaboration. Parce que le sujet, c'est la compétition, mais c'est surtout la collaboration. Et ceux qui gagneront, les vainqueurs de demain, c'est ceux qui coopéreront le plus.
Le mot de la fin, il y a peut-être un sujet qui intéresse tous les investisseurs, c'est le prix du carbone qui n'est pas assez élevé, disent certains. Donc pour que, on va dire, tout le monde s'y mette, on ne peut pas faire grand-chose sur ce prix-là. Mais est-ce qu'il ne faut pas qu'effectivement on arrive à un autre prix pour que ça déclenche véritablement un mouvement de fond?
Moi, je n'ai jamais opposé le prix du carbone et la finance verte. Souvent, quelquefois, certains essayent d'opposer l'un à l'autre, ou quelquefois, on a tendance à positionner le prix du carbone comme une espèce d'alibi pour ne pas développer de la finance verte. Je pense que l'un et l'autre doivent avancer conjointement. Bien sûr, on a besoin d'un prix du carbone plus élevé, puis surtout une trajectoire claire avec une bonne visibilité sur le futur. On sait bien que là, dans les semaines et les mois qui viennent, il ne se passera pas grand-chose avant les élections allemandes. Ça a été annoncé clairement, y compris par le président de la République. Post-élection allemande, il y a une fenêtre pour faire une relance très forte et volontariste de l'Europe dans ce domaine et aller de l'avant sur le prix du carbone. En attendant, la finance verte doit aller de l'avant et doit se développer. On doit ses mains dans la main. Hein, on doit avoir d'un côté un prix qui donne une indication sur le futur, mais aussi de l'innovation financière qui apporte sa pierre à l'édifice.
Merci Philippe Zawati.
Avec plaisir.